Sur son de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle majesté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme s'écriait, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Quand je songe, tu m'as fait,
que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce culte, que vous soyez ici présents avec nous ou bien à la maison en streaming. Pour commencer, j'aimerais faire quelques annonces. Alors pour les habitués, vous les connaissez presque par cœur, on pourrait presque vous faire une petite interrogation sur le sujet. Mais comme vous le savez certainement, nous fêtons cette année les 60 ans de l'EM. Les choses avancent bien, on y est tout bientôt. Et donc on vous rappelle qu'il y a plusieurs dates à retenir. Le 16 septembre tout d'abord, à la campagne Charnot, juste là-bas derrière, vers un village, aura lieu une sorte de festival, un lieu avec toutes sortes d'activités, des food trucks, donc je ne sais pas comment on dit ça en français, des caravanes à nourriture, avec des jeux pour les enfants, des animations. Et donc c'est vraiment un temps qui est prévu pour inviter ses amis aussi. Donc venez, venez en famille et venez avec vos amis, vos voisins. C'est un temps qui est vraiment prévu pour ça. Et puis le soir aussi, au même endroit, il y aura des concerts à 18h. Alors là, c'est plutôt les jeunes qui sont le public cible, mais que cela ne vous empêche pas de venir aussi. Donc voilà, dès 12 ans, invitez vos potes, invitez vos amis et venez nombreux pour cet événement. Ensuite, le samedi 23 septembre, nous aurons le soir un temps de louange. Louange au sens large, parce que souvent dans nos milieux, quand on parle de louange, on pense au chant. Mais la louange, c'est toutes sortes de manières d'exprimer notre louange à Dieu. Et donc, ne restons pas coincés dans notre manière parfois étroite de voir la louange. Et venez participer, venez aussi avec vos dons. Peut-être que vous aimez écrire, peut-être que vous faites des poèmes, peut-être que vous peignez, Apportez tout cela pour cette soirée de louange. C'est David Jeunecamp qui organise ce temps. Peut-être lève la main. J'imagine beaucoup te connaissent déjà. Donc allez le voir. Je sais qu'il cherche encore du monde pour ce temps. Aussi pour tout ce qui est technique. Il y a encore des besoins pour cette soirée. N'hésitez pas à vous avancer. Je me suis perdu dans mes notes. Le dimanche 24, donc le lendemain, il y aura le culte de reconnaissance, ici même, avec une partie officielle pour les 60 ans de l'EM. Et puis, ce sera suivi d'un cocktail dînatoire qui, lui, aura lieu à la salle Antoine Verchère. juste un peu plus loin là-bas, si jamais vous suivrez le cortège de gens qui ira, si vous ne saviez pas où c'est. Voilà, je ne sais pas si on cherche encore des gens pour préparer et pour ranger, mais si jamais, il y a tout plein de feuilles pour s'inscrire pour tout ça dans le hall d'entrée. Donc, allez regarder, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, des informations suivront aussi sur les besoins spécifiques pour ce temps-là. On attend aussi de voir combien de personnes vont s'inscrire pour cet apéro. Donc, si vous pensez venir, si vous allez être là, inscrivez-vous pour qu'on puisse bien organiser les choses, avoir des bonnes quantités, etc. etc. Donc, voilà. Claire-Lise m'a dit qu'elle attend encore un petit peu de voir combien on va être pour finaliser tout ça. Donc, merci de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Sachez aussi que du 23 septembre au 10 octobre, donc une dizaine de jours, il y aura une exposition artistique dans tout le bâtiment ici. Les choses avancent bien, il y a déjà une trentaine d'exposants qui sont prévus, toutes sortes de choses, donc ça va être riche et varié. Et puis, on va aussi pouvoir visiter cette exposition l'après-midi pendant la semaine. Et pour que ça puisse se faire, on cherche des personnes qui soient d'accord de faire des permanences, donc d'être là pour accueillir les visiteurs. Donc voilà, si vous dites, ben voilà, moi je peux faire ça un jour, deux jours, être présent, avancez-vous, parlez-en à Anne-Marie et Sylvie, voilà, qui organisent cette exposition, pour qu'on puisse avoir une permanence durant ces 10 jours, et puis que ceux qui le désirent puissent venir visiter les lieux. Ok, il y aura une feuille sur le panneau. Je me suis dit, il y a beaucoup de feuilles pour s'inscrire pour beaucoup de choses, donc baladez-vous à la fin du culte dans le hall d'entrée, et puis à chaque fois que vous voyez une feuille, mettez votre nom. Comme ça, c'est fait. Voilà. Tout le monde sera content. Oui. C'est juste. Exactement, c'était ma prochaine phrase si je lisais mes notes. Donc voilà. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, il y aura un vernissage le même soir que la soirée de louange, le 23 septembre à 17h. Donc, voilà, venez aussi nombreux pour ça. Voilà, ça c'était pour les 60 ans, j'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions...
De 24 à 16h, concert de
gospel spirit. Ok, 24 à 16h, concert de gospel spirit. Ici?
Ici,
très bien, merci beaucoup. Voilà, sinon, dans les choses régulières de la semaine, comme tous les mercredis, il y a... Non, c'est pas vrai, pas tous les mercredis, toutes les deux semaines, il y a le cathé. Donc, mercredi 13 septembre à 20h, le catéchisme. Donc, n'oubliez pas, les jeunes. C'est parce que... Voilà, à 17h, le cathé. Et puis, la ligne suivante, le groupe de jeunes, à 20h, 19h pour le temps avant. Voilà, si vous allez au groupe de jeunes, vous savez comment ça se passe, j'imagine. Hein. Voilà, donc ça, c'est les deux le mercredi, à 17h le cathé et à 20h le CTT. N'oubliez pas non plus la journée œcuménique qui aura lieu le 30 septembre. Là aussi, il y a des flyers à la sortie si vous avez encore envie de vous inscrire et d'aller à cette journée. Et puis, maintenant, une annonce spéciale pour les Kids Genève. J'aimerais inviter Sébastien. Ça a l'air d'être lui qui va venir, ou les deux. Ben oui, vous venez, vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. J'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà dit « waouh » aujourd'hui ? Et cette question est le fondement de la grande semaine. Et en effet, il s'agit d'une semaine basée sur l'étonnement créatif et l'émerveillement de la beauté. Ensemble, adultes et enfants, nous acceptons de nous mettre en jeu et de nous exposer à l'expérience de co-création. Donc c'est une semaine de création que nous faisons. Et on a aussi comme deuxième invitation, sentez, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et c'est tout autour de ces deux invitations, le « waouh » et le « goûte » que nous avons abordé avec les enfants les questions merveilleuses de mystère comme une pluie de viande, oui, une pluie de viande, ou bien ce manhou, mais qu'est-ce que c'est quoi cette manne qui s'offrait chaque matin en guise de nourriture, tout en explorant concrètement l'expérience de la création. C'est avec cette curiosité et ce désir intact de rencontrer la beauté que nous approchons cette nouvelle édition, avec cette fois-ci une nouvelle question que nous avons relevée dans le psaume 122. Mais pourquoi David se réjouit-il autant lorsqu'on lui dit « Allons dans la maison de l'Éternel » ? Alors j'aimerais profondément vous remercier, vous, très chère communauté, vraiment parce que vous avez un accueil extrêmement généreux de nous permettre de venir ici. Nous nous sentons aussi un cœur qui est là et qui nous a ouvert grand ses portes. Et j'aimerais vous dire que nous mesurons à quel point votre louange est notre terreau.
Donc alors concrètement, il y aura un nombre encore inconnu d'enfants qui vont occuper ces locaux avec une équipe pendant la semaine des vacances d'automne, donc en octobre. L'équipe est encore en train de se constituer. Vous êtes bien évidemment les bienvenus pour ceux qui souhaiteraient vivre l'aventure avec nous. Et donc nous accueillons les enfants de 9h à 17h30 pour les activités, mais nous sommes là de 8h du matin à peu près 18h. Donc si vous pensez à quelqu'un, des petits-enfants, des amis ou etc. qui cherchent un camp de jour ou confier leurs enfants pendant cette semaine de vacances, c'est le bouche à oreille qui marche le mieux quand même pour ces camps-ci. Donc soyez la bouche pour les oreilles. Et sinon, venez me voir si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi. Nous sommes là avec Eleanor toute la matinée et encore après pendant le petit temps du café. En tout cas, je vous remercie à toute la communauté pour l'accueil que vous nous prodiguez. C'est une des conditions de réalisation de notre camp. Et grâce à vous, nous allons à nouveau pouvoir le faire cette édition. L'année dernière, c'était merveilleux. Nous attendons un super camp cette année. Donc merci beaucoup et à tout à l'heure.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà des flyers imprimés ou pas encore ?
Non.
Semaine prochaine. Ok, ça marche. Donc, bientôt disponible aussi à la sortie. Voilà, une petite blague pour les grands et les petits. Et puis ensuite, on prendra un temps de chant. Alors, les enfants et les grands, c'est l'histoire d'un alpiniste qui, voilà, il grimpe sa montagne, fait de l'alpinisme. Puis à un moment donné, il glisse, puis il se rattrape juste au bord de la falaise, comme ça. Puis il sent que ça glisse, puis il est là, il ne sait plus quoi faire, il est tout seul. Puis il dit « Au secours, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Et puis là, il entend une voix. Alors dans les histoires, je ne sais pas pourquoi, on imagine que Dieu a une voix très grave, un peu comme le tonnerre. Et puis il entend cette voix qui lui dit « Oui, c'est moi, Dieu, fais-moi confiance, tu peux te lâcher, je vais envoyer un ange pour te rattraper. » Puis là, l'alpiniste, il réfléchit un peu, puis il se dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre ? Les grands ont compris, les enfants, on verra. On en reparlera à la fin, si jamais. Voilà, retenez bien cette histoire, on en reparlera à la fin du culte. Donc, les enfants, restez encore avec nous pour ces trois chants, et puis ensuite, on vous libérera pour aller dans vos groupes. Merci d'avance à l'équipe qui s'est préparée pour ce temps.
Présence du Seigneur et nous nous réjouissons, comme il a été rappelé avec le psaume 122, d'être dans la maison du Seigneur et de venir dans sa présence pour le louer.
sera plus triomphé de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas.
Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté des cieux. Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu prennes garde à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé, tu as tout mis à ses pieds. Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Ciel et les étoiles, c'était toi. Les couleurs de la toile, c'était toi. Se rencontre en mes bras, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Ma voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douleur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je au éternel pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours en mon Dieu, je reste émerveillé. Pour que tu penses à moi, on se pose mes yeux sur ton immensité, que toujours en mon Dieu, j'en reste émerveillé. Au Créateur du monde, au Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle. D'un Dieu si grand que toi. Comment expliquer, comment décrire un Dieu que rien ne peut contenir et un amour aussi grand.
Expliquer
Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos cœurs sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits de nous. Entends le chant d'amour, de tout est racheté.
Bonjour à chacun, à chacune. Bonjour les enfants. Ça va bien ce matin ? C'est la forme ? C'est cool. Là, c'est votre moment à vous maintenant. Vous allez pouvoir descendre dans les groupes des potes, je crois ce matin avec Denise et Elise. Merci beaucoup. Alors, on vous accompagne, on va demander au Seigneur de prendre soin de vous, mais vous pouvez descendre. Cher Seigneur, on te prie pour ces enfants que tu nous prêtes. On te remercie pour eux, pour elles. Ils nous sont précieux, bien sûr. Ils te sont infiniment précieux. Et nous aimerions, Seigneur, que tu creuses dans leur vie les sillons d'une vie qui te glorifie. Merci d'accompagner chacun de ces enfants et puis les monos de ce matin. Encourage-les dans le nom de Jésus. Amen. Nous débutons ce matin une série qui va probablement se faire en 5 épisodes. On en a pas mal parlé avec le conseil encore ce printemps et au début de l'été. Une nouvelle série intitulée « Motivée par l'essentiel ». Alors, ce ne sera pas chaque dimanche parce que vous avez compris qu'on entrait aussi dans une période de fête. Mais enfin, cette série aujourd'hui, la semaine prochaine et puis dans les dimanches qui viennent, va nous accompagner pour nourrir notre réflexion sur des éléments essentiels de notre foi. Pour ce matin, j'aimerais partager avec vous une exhortation qui tient en 5 mots. Laurent, tu peux peut-être nous ouvrir l'écran. Merci. Cinq mots qu'on va détailler un peu, mais cinq mots. Ne gâchez pas votre vie. Ne gâchez pas votre vie. C'est le thème de la réflexion de ce matin. Et cette réflexion, avant de vous la proposer, je me l'impose. Elle m'accompagne. Elle me saisit, en fait. Ne gâche pas ta vie. J'aimerais prier. Cher Seigneur, au-delà du fracas des jours qui se succèdent, des circonstances que les uns et les autres nous rencontrons, j'aimerais que nous puissions écouter, entendre, accueillir ta voix ce matin. Et je te prie de nous aider à t'ouvrir nos intelligences, nos cœurs, nos tripes. Aide-nous à nous décentrer pour t'écouter, toi, notre grand Dieu et Sauveur. Et je te prie de m'aider à être un fidèle porte-parole de tes intentions, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, amen. Une première lecture, Éphésiens 5, 15 à 17. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Pour ne pas gâcher sa vie, il faut veiller avec soin à sa façon de vivre. Apporter du soin à sa vie dans tous ses aspects. Personnels, intimes, familiaux, relationnels, professionnels. La vie dans tous ses aspects. Il s'agit de ne pas vivre en se laissant juste porté par le courant et advienne que pourra. Non, d'après l'apôtre, il nous appartient de déterminer, de choisir comment on va vivre sa vie. Et je sais que la vie, elle est complexe, elle est multipiste, il y a des appels de partout. C'est dur de vivre parfois. Mais sa vie, l'apôtre nous encourage à la déterminer, et en tout cas, à y apporter une grande attention, veiller à sa vie. Donc, tout le soin que vous apportez à entretenir de bonnes relations avec vos parents, avec vos enfants, à un repas pour des invités, à une lettre de motivation, à l'entretien de la voiture, à réviser vos examens, à préparer votre retraite, tout cela et bien plus pour ne pas vivre d'une façon désordonnée, nous dit l'apôtre. Alors je sais qu'on ne maîtrise pas tout dans la vie. Il y a des trucs qui nous tombent sur le coin de la figure, on ne les avait pas vus venir. Et dans des domaines super importants, y compris par exemple nos amours. On ne maîtrise pas tout dans la vie. Mais l'apôtre nous invite à profiter, dit-il, des occasions et des circonstances qui se présente à nous pour aller dans le bon sens. Il dit, comprenez ce que le Seigneur attend de vous. C'est donc qu'on n'est pas juste laissé sans boussole, sans gouvernail, sans possibilité de se diriger dans la vie. Comprenez, c'est possible. Vous pouvez savoir ce que le Seigneur attend de vous. Ou pour le dire autrement, avec des bouquins qui ont été écrits sur le sujet, vous pouvez discerner la volonté de Dieu. C'est possible. Je rencontre souvent des gens qui sont très en souci pour connaître la volonté de Dieu concernant leurs études, concernant leur travail, concernant un projet sentimental, un projet de mariage. Et c'est des choses importantes. Les études, le travail, les amours, c'est important. Sûr, c'est important. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'une fois qu'on a réglé ou commencé à régler ces questions importantes, il reste à savoir ce que Dieu veut pour notre vie dans son ensemble. Pour les 10, 20, 30, 50, 60, 70 années de vie qui nous restent à vivre. Qu'est-ce que Dieu veut ? Parce que là, on est sur le fond du fond. Motivé par l'essentiel, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu veut ? Et à partir de là, j'aimerais nous poser trois questions importantes. La première, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Moi, petit bonhomme sur cette petite boule bleue, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? 2023, Mérin, Grand Genève, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Et pour la faire courte, je vais répondre à cette question par un seul mot. Un seul. Tout. Tout. Dieu veut notre vie entière. Dieu veut ma vie entière. Dieu veut ta vie entière. Il n'y a pas un seul passage de la Bible, pas un seul, qui nous disent que nous pouvons être chrétiens, chrétiennes en alternance. Ça n'existe pas dans la Bible, l'alternance. Dieu veut tout de nous. Il ne veut pas 10% de nous, il ne veut pas 50% de nous, il ne veut pas 90% de nous, il veut tout de nous. Et Dieu me semble très clair sur ce point. Il ne fait pas de mystère quant à ce qu'il attend de nous. Romains 6, verset 13. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres, vos corps à sa disposition comme des armes au service du bien. Offrez-vous vous-même à Dieu. Il faut donc que ce « vous » soit tout entier. Personne n'offre des demi-cadeaux. Ça n'existe pas. Quand on revient à la maison avec des fleurs, on ne laisse pas la moitié du bouquet dans la voiture. Dieu veut tout de nous. Je sais que beaucoup de gens, j'en fais partie, essayent parfois de s'asseoir entre deux chaises. Et tenter l'expérience, en plus d'être inconfortable, c'est impossible. On ne s'assied pas entre deux chaises. L'Ancien Testament disait déjà, « Que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Voilà encore une fois ce mot « tout », de tout ton cœur et de toute ton âme. Pas à moitié, pas au quart, même pas à 90%. De tout ton cœur et de toute ton âme. Alors que de plus en plus, je rencontre des gens qui disent « ok, c'est bon comme ça, sérieux. Enfin, t'as vu ma vie, t'as vu les enjeux actuels. Moi, je m'occuperai de Dieu quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie, quand ça me semblera pertinent. Pour l'instant, sérieux, fous-moi la paix. » C'est un peu comme si la vie était un camembert. J'ai une vie sociale, J'ai une vie de travail, j'ai ma vie familiale, j'ai ma vie de retraité. Et dans la dernière tranche du camembert, j'ai ma vie spirituelle. Comme si notre vie spirituelle était une tranche du camembert. C'est archi faux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Le spirituel impacte tout. Ce n'est pas une tranche du camembert, ma relation avec Dieu. Dieu, il veut le camembert en entier, pas des tranches, surtout si le camembert est coulant. Il veut que tout le camembert soit à lui. Il ne veut pas que nous lui disions « Seigneur, je te donnerai 10% de ma vie ». Il veut tout, il veut être tout entier. Nous croyons parfois que nous pouvons tout faire. Nous croyons parfois que nous pouvons tout avoir. Ça, c'est l'illusion du temps présent. Je peux tout faire, je peux tout avoir. C'est pas possible. Ne croyez pas les marchands de rêves. Ce n'est pas possible. On ne peut ni tout faire, ni tout avoir. Ça ne marche pas. Il faut renverser le raisonnement. Nous devons tout donner à Dieu. C'est Jésus qui dit « Nul ne peut servir de maître ». Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Jésus dit ici que nous ne pouvons pas servir Dieu et le Dieu qui personnifie l'argent, mammon. Autrement dit, il est impossible d'avoir deux objectifs premiers dans notre vie. Il y aura toujours un premier objectif. Et tout le reste sera deuxième, troisième, quatrième, dixième, centième. Il est impossible dans la vie d'avoir deux objectifs premiers. Alors à part l'argent, il existe quantité d'autres choses qui peuvent empêcher Dieu de prendre la première place dans notre vie. Nos ambitions, le travail, les sports, les hobbies, les amis, la recherche d'une âme sœur, les amours, même notre propre famille, peut empêcher Dieu de prendre la première place dans notre vie. Et Jésus dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et quelque chose d'autre en même temps. Il est très clair là-dessus. Il dit, je veux tout. Je veux être le maître de ta vie tout entière. Je veux tout. Et je me permets donc de nous poser la question que je me pose à moi. Qu'est-ce qui prend la première place chez moi? Qu'est-ce qui prend la première place? Le travail? Les amis? La famille? L'argent? La forme? Ou toutes ces choses mises ensemble? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui prend la première place chez moi? Toutes ces choses-là, la famille, les amis, l'argent, le travail, la forme, toutes ces choses-là sont bonnes en soi. Elles ont de la valeur, ne serait-ce que parce que Dieu les a créées, donc elles ont de la valeur. Et Dieu approuve chacune de ces choses. Dieu aime le travail, Dieu aime la famille, Dieu aime l'amitié, Dieu aime l'amour, Dieu aime l'argent. Il approuve ces choses. Sauf quand elles prennent la première place. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et ce qui prend la première place dans notre vie, c'est notre Dieu. Si ce n'est pas le vrai Dieu, ça s'appelle une idole. Dieu dit, je veux être le number one dans ta vie, le numéro un. Et je mettrai ensuite tout le reste à la bonne place. Si je suis en tête de liste, tout le reste suivra. Et je ne vous vends pas une promesse miracle. Je suis en train de citer un texte de l'Écriture qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume 37, verset 4. Si tu mets Dieu en tête de liste, il te donnera ce que ton cœur désire. Même si tu ne sais pas encore ce que ton cœur désire, tu vas le découvrir parce que Dieu sera le numéro un. Un jour, Jésus se met en route. On lit ça dans les évangiles, c'est Luc 9, au verset 59. Un jour, Jésus se met en route. Et là, en se mettant en route, il demande à ses disciples de le suivre. Et l'un de ses disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'abord de régler mes affaires de famille. » Et cette petite phrase-là, elle m'a tellement interpellé pendant cette semaine. « Seigneur, permets-moi d'abord. » C'est juste une contradiction monumentale. On ne peut pas dire en même temps « Seigneur » et « moi d'abord ». Ça ne marche pas. Si je dis « moi d'abord », je ne peux pas dire « Seigneur ». C'est moi le numéro un. Donc, nous devons décider, mes amis, et redécider régulièrement qui va être Dieu dans notre vie. Nous ou Dieu? Est-ce qu'il va avoir la première place ou est-ce que nous allons la sauvegarder à tout prix, notre première place? Je pose encore quelques questions personnelles. Il n'y a que vous qui pouvez répondre. J'essaie de répondre pour moi. Mais à quel endroit disons-nous à Dieu « moi d'abord » ? Dieu, j'ai envie de vivre pour toi, mais laisse-moi d'abord trouver une femme, un mari, finir mes études, finir d'élever mes enfants, assurer ma stabilité financière, finir de rembourser mes prêts, réussir sur le plan professionnel. Dieu nous répondra, si je ne suis pas premier, rien de tout cela ne sera à la bonne place. Si nous décidons de mettre Dieu en premier dans notre vie, il s'occupera de tout le reste. Proverbe 3, verset 6. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Eh bien, il veut tout. Pas une partie, pas les miettes, tout. Ma deuxième question. Qu'est-ce que je peux faire alors? Si Dieu veut tout de moi, qu'est-ce que je peux faire concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas gâcher ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour marcher au pas de Dieu? Eh bien, encore une fois, je peux le dire en un seul mot. Et je suis désolé, c'est un mot que nous n'aimons pas. C'est le mot discipline. Discipline. Vous ne pouvez pas être un disciple ou une disciple sans discipline. Ça marche ensemble, disciple et discipline. Ces deux mots qui sont frères et sœurs, accolés, disciple et discipline. Dans 1 Corinthiens 25, nous lisons ceci. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, une médaille, qui pourtant sera bien vite fanée. Alors nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Nous sommes invités à faire plus et mieux que les meilleurs concurrents olympiques. Plus et mieux que les meilleurs concurrents olympiques. C'est quoi la discipline? Parce que le mot, il gratouille nos oreilles, je sais, c'est embêtant. Moi, j'ai vraiment de la peine avec la discipline. Mais il faut réfléchir un petit peu. En deux mots, la discipline, c'est une récompense reportée. La discipline, c'est accepter pendant un temps de faire quelque chose d'un peu compliqué, difficile, exigeant, afin d'en profiter plus tard. La discipline, c'est une récompense reportée. Certains d'entre nous, nous sommes très disciplinés dans notre travail. On planifie nos journées, nos semaines, on est toujours à l'heure, on est consciencieux dans le travail, on n'a pas des listes de mails qui attendent, on fait notre job. Certains d'entre nous, nous sommes très disciplinés pour nous maintenir en forme. C'est dans notre routine, c'est dans notre programme. La course à pied, le fitness, la natation, c'est dans notre programme. Certains d'entre nous, nous ne manquons jamais notre série Netflix préférée. On veillait pendant des jours pour savoir quand sortirait avec Heidi la nouvelle saison de Top Boy, une série anglaise remarquable. On ne l'a pas manqué le début. On s'était organisé pour. On avait même prévu le repas un peu plus tôt pour pouvoir regarder deux épisodes, si possible. Nous sommes disciplinés. Nous sommes disciplinés. Nous sommes tous et toutes disciplinés dans certains domaines. En fait, on est discipliné dans les domaines où on le veut bien, dans les domaines où ça compte pour nous. Les choses que nous trouvons importantes, nous les faisons. On est discipliné. Et je me demande des fois ce que serait l'Église aujourd'hui, pas juste l'Église de Mérin, mais aussi l'Église de Mérin, mais l'Église, le peuple de Dieu, si nous étions aussi disciplinés en tant que peuple de Dieu à lire sa parole tous les jours. Et à lui faire confiance. Si nous étions aussi disciplinés pour penser aux autres que pour aller travailler tous les jours. Si nous étions aussi disciplinés pour servir l'Église que pour nous servir nous-mêmes. La face de la terre serait changée. Il y a un autre mot pour les disciplines, c'est le mot habitude. Nous sommes façonnés par l'ensemble de nos habitudes. Dites-moi ce que vous faites d'habitude et je vous dirai quel est votre caractère. Et si nous voulons changer notre caractère, il nous faut changer nos habitudes. Paul dit à Timothée, entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Moi, je trouve dingue que le grand apôtre Paul dise à son jeune disciple, Timothée, pasteur, Timothée, entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Tu pourrais perdre l'habitude de rester attaché à Dieu. Comme dans le domaine physique, il nous faut nous entraîner, faire des exercices qui nous aideront à rester attachés à Dieu, à rester en forme spirituellement parlant. Et là, je pense à deux exercices indispensables et complémentaires. Le premier de ces exercices, c'est ce que j'appelle pour moi, la discipline de l'abandon. Ça veut dire qu'on laisse tomber certaines choses, que nous éliminons certaines choses, que nous ne pouvons pas continuellement ajouter des choses à notre vie sans en abandonner d'autres. Ça ne marche pas. À un moment donné, c'est full plein. Hébreux 12, verset 1 dit ceci, « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. » Ces deux éléments qui peuvent nous empêcher de marcher durablement avec Dieu. Deux choses qui nous retiennent dans notre marche avec Dieu. Le péché et les fardeaux. Deux choses qui peuvent gâcher notre vie. Et nous devons, dit l'apôtre, nous en débarrasser. Alors les péchés, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on sait tous ce que c'est. Le péché, on sait ce que c'est. On le sait dans notre conscience, on le sait dans notre cœur, on le sait dans notre corps. Le péché, on sait ce que c'est. Ça nous coupe des autres et ça nous coupe de Dieu et ça fout le beans dans notre vie et dans la vie des autres. Donc, on n'a pas envie de frayer avec le péché. On cherche à s'en débarrasser. On veut le tenir à distance. Maintenant, qu'est-ce que c'est un fardeau ? Un fardeau, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mauvais, c'est juste pas nécessaire. Peut-être c'est une relation, peut-être c'est une attente, peut-être c'est une activité, peut-être c'est un souvenir dont vous ne voulez pas vous débarrasser, peut-être c'est une peur, peut-être c'est un travail. Il existe toutes sortes de fardeaux qui ne sont pas des péchés. Et la Bible me dit que pour grandir, je dois apprendre à dire non. Je ne peux pas dire oui à tout. Nous pouvons dire non à de bonnes choses. Nous devons même dire non à de bonnes choses pour avoir le temps pour de meilleures choses. Parce qu'on ne peut pas tout faire et tout avoir. Même si nous comptons sérieusement atteindre des objectifs dans notre vie, nous devons faire de la place pour Dieu. Et si nous voulons faire de la place pour Dieu dans notre vie, nous devons éliminer certaines choses, certaines bonnes choses. Pour la plupart d'entre nous, notre vie est trop remplie. Et si nous avons trop de fer au feu, nous allons éteindre le feu. Notre vie est déjà tellement remplie. Et pourtant, tout n'a pas la même valeur. Il faut nous demander, qu'est-ce que je pourrais arrêter pour privilégier ma relation avec Dieu ? À chaque fois que nous acceptons une nouvelle activité, une nouvelle sollicitation, nous devrions nous demander en même temps, qu'est-ce que je ne vais plus faire ? Qu'est-ce que je vais remettre à plus tard ? Peut-être qu'il va falloir renoncer à une heure ou deux devant l'ordi pendant la semaine. Purée, ça pourrait tuer quelqu'un, ça. Peut-être qu'on pourrait se coucher un quart d'heure plus tôt et se lever un quart d'heure plus tôt pour lire la Bible. Peut-être devrions-nous diminuer l'entretien physique et travailler l'entretien spirituel. Parce qu'un jour, de toute façon, notre corps, il va faiblir puis il va mourir. Mais notre esprit, lui, il vivra pendant l'éternité. Il y a toujours un prix à payer pour mettre Dieu en premier dans nos vies, mais il me semble que les récompenses en valent la peine. Une couronne qui ne se flétrit pas. Il y a une deuxième discipline que nous devrions considérer, c'est la discipline de faire chaque chose en son temps. Luc 10, 41-42 parle de ces deux amies de Jésus, Marthe et Marie, qui sont sœurs, et Jésus qui vient jusque chez elles. Et pendant que Jésus enseigne, Marthe est tellement occupée par de nombreuses tâches pratiques. Elle nous ressemble tellement, Marthe. Marthe vient alors vers Jésus et lui demande, « Maître, ça ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui de m'aider. » Parce que Marie, la sœur de Marthe, elle était partie s'asseoir au pied de Jésus. Et le Seigneur Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, sérieux, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Veut dire quoi par là le Seigneur ? Ben, Jésus, il me semble dire que quand il s'agit de choisir entre passer du temps avec lui et faire la vaisselle, il n'y a pas photo. Alors je sais que tout était une question d'équilibre, parce qu'il faut que la vaisselle soit faite. Mais fondamentalement, est-ce qu'on n'est pas nous comme Marthe ? Est-ce que la liste des tâches, des choses à faire, nous empêche de nous concentrer sur Dieu ? Est-ce qu'on est tellement absorbé par l'horizon quotidien qu'on n'arrive plus à regarder à Dieu ? Notre vie est-elle tellement remplie que nous n'avons plus le temps de nous arrêter, même pour Dieu. En moyenne, nous allons vivre, vous et moi, en moyenne, 27 250 jours. C'est la durée de vie moyenne. Est-ce qu'on n'arrive pas à consacrer quelques-uns de ces jours pour réfléchir à ce que nous aimerions faire avec le reste ? Quand on pense à tout ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est le plus important ? À la lumière de l'éternité, moi j'ai plus aucun doute. C'est le temps que je passerai avec Dieu. Parce que tout le reste va disparaître un jour. Tout le reste. Et ce qui sera important, ce qui restera, c'est la relation que j'aurai entretenue avec Dieu. C'est la notion du trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Ma dernière question avant de conclure. Pourquoi ? Qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Il veut tout de nous. Zéro doute à ce sujet. Qu'est-ce que je peux faire ? Ben, il faut un peu de discipline. Il y a des choses à laisser de côté. Il y a des choix à opérer dans la vie. Pourquoi devrais-je faire des efforts pour grandir spirituellement ? Pourquoi devrais-je laisser tomber des choses dans ma vie pour prendre du temps avec Dieu ? Alors moi, je suis convaincu que les avantages y sont nombreux dans cette vie-ci et dans celle qui vient. ces choses essentielles qu'on chérit, d'autres secondaires ou inutiles, voire néfastes, qu'on laisse de côté. Mais même, mes amis, même s'il n'y avait aucun avantage ici-bas à faire ce que Dieu nous demande, même s'il n'y avait aucun avantage à mettre Dieu en priorité, je peux vous dire en deux mots pour quelles raisons nous devrions le faire. La croix. À cause de la croix. Jésus a entièrement donné sa vie pour nous, pour que nous soyons entièrement pardonnés, graciés, relevés. Est-ce qu'on le réalise encore ? Là où nous méritions sa plus grande condamnation, il nous donne sa plus grande bénédiction. Il a pris sur lui la punition que nous méritions pour nous ouvrir tout grand les portes de l'intimité éternelle avec Dieu notre Père. Il a été traité comme s'il était nous, péchés, pour que nous puissions être traités comme si nous étions lui, justice. La croix. Jésus a entièrement donné sa vie pour vous, pour que vous puissiez entièrement lui consacrer votre vie en retour. Parce que t'es fait pour lui. T'es faite pour lui. Il n'y a aucune satisfaction durable en dehors de lui. Ta vie trouvera son sens et son épaisseur qu'à travers lui. Sans la croix, la vie n'a pas de sens. Mais à cause de la croix, nous vivrons pour l'éternité dans la présence glorieuse de Dieu et assurés de sa présence maintenant et ici-bas. Romains 12, verset 1. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ne gâchez pas votre vie. Ne gâchez pas votre vie. Notre vie, elle va bientôt passer. Ça va très vite. Écoutez les anciens. Ça va très vite. Et seulement ce qui aura été fait pour Christ durera éternellement. Rien d'autre ne sera important. Alors en conclusion, c'est le moment ou jamais. Le tout premier verset que nous avons lu aujourd'hui disait « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. » Ça, c'est votre part à vous, la mienne, de mettre à profit les occasions qui se présentent à moi. Ne vous contentez pas d'être spectateur ou spectatrice. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Je vous propose une prière. Une fois n'est pas coutume, une prière écrite. Je vous laisse la lire. Et puis, je la prierai à haute voix et sentez-vous la liberté de la prier avec moi à haute voix ou intérieurement. Mais lisez-la d'abord. Il y a des prières qu'on peut dire en tremblant. Pour moi, c'est le cas avec ces mots-là. Donc, personne n'est obligé à rien du tout. Mais on peut la dire avec toutes les réticences et les contradictions qui nous habitent. Notre Dieu, notre Père, je ne veux plus hésiter. Je ne veux pas être un chrétien, une chrétienne superficielle, à temps partiel ou tiède. Je veux te donner ma vie entière. J'ai besoin de ton aide pour prendre les habitudes dont j'ai besoin pour grandir spirituellement. Aide-moi donc à abandonner les choses qui ne sont pas vraiment importantes et à mieux te connaître dans ma vie. Merci pour la croix où je trouve pardon et sens. Je veux participer à ce que tu vas faire parmi nous par une consécration qui t'honore. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Je ne sais pas comment vous vous sentez après ce message, il y avait beaucoup de choses. Alors qu'on se préparait avec Philippe pour ce culte, je lui disais, voilà, ce message, il est aussi pour moi. C'est un de ces messages que je considère comme, un message qui fait partie de ma vie, que je pourrais moi-même prêcher, que j'ai envie de prêcher. Ça fait partie des choses que Dieu a déposées sur mon cœur. Et s'il fallait signer à la fin du message de Philippe, je signerais volontiers, en disant « Oui, je suis d'accord avec tout ça. Je crois moi aussi que Dieu demande tout de nous. » Et ce n'est pas nouveau. J'ai pris l'engagement de donner ma vie à Dieu il y a déjà longtemps. Et certainement pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas également. Mais parfois, nous avons besoin de nous réaligner. Il y a des réformes dans l'Église au sens large, mais il y a aussi parfois besoin de réformes dans nos propres vies. Ceux qui me connaissent bien le savent, j'ai la tête dure. Alors parfois c'est bien, hein, quand il faut défendre la justice, quand il faut persévérer, c'est utile d'avoir la tête dure, parce qu'on voilà, on ne lâche pas, on n'abandonne pas quelque chose qui est bon, qui est juste. Le problème c'est qu'on a aussi parfois la tête dure vis-à-vis de Dieu. Et ça a été mon cas. Il y avait quelque chose que j'avais laissé dans ma vie, un petit peu comme une mauvaise herbe. Si vous jardinez un petit peu, vous savez, les mauvaises herbes, ça revient régulièrement. Et l'idéal, c'est de les arracher à la racine pour que ça ne revienne pas. Mais moi, au lieu d'arracher cette chose à la racine, je la coupais simplement régulièrement. Et puis voilà, pendant un temps, ben, la mauvaise herbe n'était plus là. Mais bien sûr, elle repoussait quelques temps plus tard. Et j'ai fait ça pendant plus de 15 ans, quand je vous disais que j'avais la tête dure. Alors, il s'agissait d'un hobby, de quelque chose que, voilà, que j'appréciais. Mais pourtant, je savais très bien que Dieu me demandait d'arrêter ce hobby qui prenait juste trop de place dans ma vie. Quand nous sommes avec nos enfants, avec Rebecca, il y a un petit mot, une petite phrase qui nous énerve régulièrement. Quand on leur demande de faire quelque chose, voilà, ranger votre chambre, ramasser vos chaussures, c'est le « oui mais ». Tous les parents connaissent ça. Et voilà, une fois de temps en temps, ce n'est pas dérangeant, mais quand à chaque fois nos enfants nous disent « oui mais attends, je finis encore ça » ou « je fais ceci » ou « oui non mais ce n'est pas ma faute parce que… » Mais parfois on est aussi comme ça avec Dieu. Dieu nous montre quelque chose qu'on doit réaligner, qu'on doit changer de nos vies. Et puis nous, on dit « oui, mais ». Alors un petit peu comme cet alpiniste qui était là au bord du gouffre et à qui Dieu dit « ben, fais-moi confiance, vas-y, lâche-toi. Donne-moi l'entier de ta vie. » On dit « est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre ?» Parce que l'idée de Dieu me plaît bien, mais tout donner, ça fait quand même un peu peur. Et pourtant, tant qu'on n'aura pas lâché, on ne saura pas ce que Dieu a pour nous. C'est le petit moment là où il faut dépasser sa peur et faire confiance. Parce que Dieu ne met pas le filet dessous pour qu'on puisse le voir. On ne voit pas non plus l'ange qui est prêt à nous rattraper. Il dit « je vais envoyer un ange vous rattraper ». C'est que quand on lâche qu'on réalise ce qui va se passer. Et on a ce sentiment de liberté quand on s'abandonne dans les mains de Dieu. Alors voilà, je ne sais pas ce matin comment vous avez entendu ce message, je ne sais pas s'il y a des choses qui clairement sont sur votre cœur, que vous savez, que vous devez vous engager ou vous réengager devant Dieu, que vous devez réaligner. Mais comme Philippe, je vous encourage vraiment à le faire, à vous abandonner dans les mains de Dieu et à tout lui donner. Ce n'est pas facile, ça nous coûte, mais ça vaut la peine. Et on voulait maintenant encore prendre un petit temps de prière libre. Si vous désirez exprimer quelque chose à Dieu, on vous encourage aussi à prier avec quelqu'un, peut-être. Si ce matin, vous avez l'impression que vous devez vous engager ou vous réengager devant Dieu, dans un domaine ou dans un autre, vous savez ce que Dieu vous montre ou vous a montré, parfois il y a longtemps comme moi. Deux choses que j'ai remarquées dans ma vie chrétienne qui m'ont beaucoup aidé alors que je devais m'engager devant Dieu, c'était de le faire maintenant, de ne pas attendre. Quand Dieu nous parle, il faut répondre tout de suite. Si on dit oui mais, si on dit je ferai ça demain, je serai tranquille à la maison, tout à coup notre engagement va être affaibli et on risque de ne plus s'engager du tout. Et comme moi, ça peut durer 15 ans. On vous encourage aussi, ou je vous encourage à avoir un témoin de votre engagement. Là aussi, ça va rendre votre engagement plus fort, plus conséquent. Une personne qui pourra peut-être de temps en temps vous poser la question. Alors, cet engagement, est-ce que tu le tiens toujours? Comment est-ce que je peux prier pour toi? Ça va vous aider. Donc voilà, prenons maintenant un temps de prière. Et puis après ça, on chantera un chant. Un chant qui va dans le sens de la prière que nous avons fait tout à l'heure. Ce chant dit « je te donne tout ». Le genre de chant, on doit réfléchir avant de le chanter.
Alors même que nous luttons, alors même que nous sommes dans la... connu. Alors même que nous souffrons, tu nous rejoins. Tu as quelque chose à nous dire par rapport à nos pensées, par rapport à nos souffrances, par rapport à nos inconnus. Parle, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus que tu nous as donné pour faire toutes choses nouvelles. Amen.
Amen.
Ô Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Comme le dit le psaume, tu sais que nous sommes poussière, nous sommes rien. Pas grand-chose, mais nous avons de la valeur à tes yeux. Tu connais aussi nos décisions, tu connais aussi nos faiblesses, nos manquements. Chaque fois que nous avons abandonné, mais Seigneur, ta main est toujours tendue. À nous de la prendre et tu veux nous relever. Merci parce que ta grâce est là et elle me suffit, elle nous suffit pour avancer avec toi. Avec toi. Amen.
Oui, Père, merci de nous rappeler que toi, tu veux tout de nous. Non pas, Seigneur, parce que tu veux nous mettre sous un esclavage, mais parce que tu veux nous donner la liberté. Seigneur, cette liberté en toi, Seigneur, elle vaut mille fois mieux que toutes les activités que nous pouvons entreprendre. Seigneur, Jésus, merci de se rappeler de nous, de te rallier, Seigneur.
Je sens que je suis en train de devenir Marie. Et avec son sourire, il m'a dit, oh là là, il y a encore beaucoup de Marthe en toi. 30 ans après, il y a encore trop de Marthe en moi. Et je te demande pardon. Et je te dis devant la commission, devant l'Église, je veux mettre faire l'inverse, être plus de Marie que de Marthe. Mais j'ai tellement besoin d'aide, parce que quand je suis Marthe, je fais, je suis content parce que je vois, je fais, et je râle tout le temps parce qu'il n'y a que des Maries autour de moi. Alors, Seigneur, pardon pour cette attitude, mais je demande même à la communauté de ne pas me solliciter, de dire Clémentine, arrête. Sois Marie. Et j'aime tellement la place de Marie. Mais je passe quelques secondes avec Marie, en étant Marie, et puis le reste, c'est Marthe. Oh Seigneur, viens au secours de Marthe. De cette tête dure, comme bien, cette tête dure, c'est seulement moi qui vais le travail avec les autres, ne vois pas. Pardon, parce que c'est l'orgueil, parce que c'est aussi l'orgueil. Je te demande cette grâce et je crois, Seigneur, que tu veux que le reste de vie, que le temps qui me reste, que je sois Marie. C'est de mon cœur. Amen.
Cher Seigneur, tu sais combien ce message m'a parlé ce matin, surtout aussi la question de cette personne en détresse qui demande, y a-t-il quelqu'un d'autre? Alors parfois je me demande si toi, Seigneur, tu ne veux pas que moi je sois cette autre personne qui vient au secours de cette personne en détresse. Donne-moi la discipline de laisser tomber mes projets à moi quand toi tu veux que je secoure à quelqu'un qui est en détresse. Donne-moi le discernement de voir ce que tu veux de moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et merci que tu sois là. Amen.
Amen.
Pour qui? Pourquoi? Oh Seigneur, devant ces questions essentielles, aide-nous à ne pas nous tromper de cible. Garde-nous d'être en route, encore et toujours, à tout moment, le cœur et les yeux branchés sur toi. Il n'y a que toi qui puisses nous aider à avancer de la façon juste que tu veux pour chacun de nous. Alors merci de susciter en nous cette discipline dont on a besoin, ni trop ni trop peu, mais juste ce qu'il faut pour être tout à toi. Quel grand mot, Seigneur.
Ouais.
Mais quelle joie de pouvoir le vivre à tout moment. Merci pour ton aide pour chacun de nous. Merci de réjouir mon cœur parce que le meilleur est devant. Et tu nous attends, Seigneur. Tu nous t'oublieras. Merci pour ton amour. Merci pour la croix. Merci pour tout ce que tu nous offres qui nous aide à avancer, à rester en route encore et toujours jusqu'à notre rencontre avec toi. Amen.
Amen.
J'aime beaucoup David parce que c'est quelqu'un qui priait de manière très brute, très honnête, qui n'avait pas peur de dire ce qu'il ressentait devant Dieu. Et ces dernières années, j'ai appris à prier un peu comme lui, à juste dire les choses à Dieu plutôt que d'avoir une espèce de prière un peu jolie, chrétienne. Et je crois qu'on peut aussi dire à Dieu, j'ai envie de te donner ma vie, mais je n'y arrive pas. Et en fait, il y a même une partie de moi qui n'a pas envie. Comme ça a été prié tout à l'heure. Moi, j'ai dû confesser parfois à Dieu, j'avais certaines addictions, j'ai dû dire à Dieu, alors d'abord j'ai commencé par dire « j'y arrive pas », et puis après j'étais encore un peu plus loin en disant « en fait, j'ai même pas vraiment envie, parce que j'aime ça, et il y a quelque chose qui me procure du plaisir, qui me fait du bien, je sais que c'est faux, je sais que je dois m'en débarrasser, mais honnêtement, j'ai pas complètement envie non plus de m'en débarrasser. » Et Dieu m'a aidé, ça a pris du temps. Donc ce matin, peut-être que vous êtes prêts à chanter à Dieu « Je te donne tout » ou peut-être que vous avez envie de lui chanter ça, mais que vous n'êtes pas tout à fait prêts. Voilà, dites simplement à Dieu une prière honnête. Il n'a pas peur de ça. Et de toute façon, il nous connaît bien.
Je te donne tout.
je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Prends mon âme,
prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout, mon cœur est à toi, tout à toi.
Si vous désirez prier avec quelqu'un à l'issue de ce culte, n'hésitez pas à vous avancer, nous serons plusieurs à être présents, disponibles pour vous. Et puis, je vais maintenant prier pour terminer. Seigneur, merci, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta grande patience. Merci parce que tu es lent à la colère, plein de bonté. Merci pour ta miséricorde qui est tellement grande envers nous. Que ton esprit continue à travailler en nous. Cette semaine, que ce qui a été entendu aujourd'hui soit planté dans nos cœurs, que tu puisses arroser, que ces choses germent et portent du fruit dans nos vies et autour de nous. Seigneur, je bénis chaque personne qui est présente ici, chaque personne qui est à la maison. Merci parce que tu es avec nous dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes. Sois béni, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, n'oubliez pas que le café est là, disponible pour vous. Prenez le temps de discuter avec les uns et les autres. Et puis, n'oubliez pas les nombreuses feuilles sur lesquelles vous pouvez vous inscrire pour nous aider. À bientôt, bon dimanche.